On se tutoie sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
Salut Jean-Luc.
Wow, comment tu vas?
Salut Jean-Luc.
Salut Chris. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Nostalgie. Comment vous dire, vous présenter le parcours professionnel de notre invité en ce joli vendredi soir sur Nostalgie n'est pas chose facile pour moi, car on ne saurait le qualifier tellement il doit avoir un petit truc en plus. Et tant son parcours peut s'apparenter à une grande boucle en vélo. Pour vous résumer l'histoire, une espèce d'énorme voyage dans le temps avec une crête de punk sur la tête. Une carrière qui ne cesse de prendre des virages audacieux. Et s'illustrant dans le drame ou dans un long dimanche de fiançailles, il donne la réplique à Audrey Tautou. Il brille, entre autres, le pinceau à la main, dans Les Yeux de Monet, ou performe dans Les Brigades du Tigre, où il nous prouve qu'il sait manier la moustache avec autant de délectation et de talent que le revolver. Il prête également toute son énergie débordante à notre célèbre Gaulois dans Astérix aux Jeux Olympiques, et se transforme en un jour, en un tour de magie, en Marius Lacaille dans Brise de Nice, ou tout simplement en cuisinier, un brin bourru dans Le Chef face à Monsieur Jean Reno. Mais notre invité, c'est également un passionné de comédie qui nous fait rire dans Bienvenue à bord, où il incarne un coach complètement barré, et dans Radio Star, où il joue, tiens, un animateur radio. Un métier qu'il connaît bien et que je me permets de lui subtiliser ce soir. Et puis, il y a son amour pour le théâtre, formé à l'école des planches. Avec des parents déjà fantasques dans ses métiers artistiques, il joue Molière, Shakespeare et bien d'autres, prouvant ainsi qu'il sait aussi bien électriser une salle de cinéma qu'un public de spectacle vivant. Pour tout vous dire, il passe avec brio derrière la caméra en réalisant des films comme Belle et Sébastien. Et c'est ainsi que l'aventure continue, et ça c'est magnifique. Il prouve que le talent ne connaît décidément aucune limite. Vous me direz, il y aura toujours des jours meilleurs. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est un jour heureux, car nous recevons sur Nostalgie un très grand comédien, fils de très grande comédienne. Bonsoir Clovis Cornillac.
Bonsoir, bah dis donc, il va falloir parler, après ça va être compliqué. Merci beaucoup et bonsoir à toi, à tout le monde.
Alors on se tutoie alors?
Bah j'ai cru comprendre, non?
Oui, c'est exactement ça, c'est le titre de l'émission, voire même c'est le concept. Alors on va parcourir un petit peu deux, trois petites périodes, et puis on parlera évidemment de ton actualité débordante. Je ne m'imaginais pas tomber sur une espèce de volcan comme ça, et ça commence très 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 tôt, donc naissance à Lyon, comme je disais, fils de comédienne, Myriam Boyer. Quand même, quand on est fils de comédienne, c'est pas rigolo du tout. Et de papa Roger Cornillac, comédien, metteur en scène. Donc, quelque part, t'es tombé dans la marmite tout petit, quoi.
Oui, dans le fait que on est dans le même métier et qu'on pratique des choses qui sont, enfin voilà, une profession qui est la même, mais on n'est pas une famille d'artistes en fait. C'est ça qui est assez rigolo, c'est-à-dire que Myriam m'a eu très jeune.
Ouais.
Et concrètement,
tu appelles maman Myriam
parce que c'est son nom.
D'accord.
Sinon j'aurais dit Brigitte. Mais elle s'appelle Myriam. Et non, mais du coup, elle m'a eu très tôt. Elle a été secrétaire chez Pigier. Voilà, elle est rentrée en fait dans ce monde-là par passion, par envie, par rêve et tout ça. Mais ça s'est fait presque en même temps. C'est-à-dire que souvent avec Mime, on a l'habitude de dire on a grandi ensemble.
D'accord.
Et souvent quand on parle de familles qui seraient des familles d'artistes, et il y en a. Dieu sait qu'il y en a des lignées. Tout ça. Tu te dis.
Oui, les Brasseurs et autres, bien sûr.
T'imagines, tu sais, un endroit où on parlerait d'art, où il y aurait des bouquins partout, où il y aurait des...
Pas du tout.
Et pas du tout. C'est-à-dire que nous, ça vient du sous-prolétariat, et tout à coup, ça se met à devenir artiste, entre guillemets. Et donc, c'est maintenant, je dirais, qu'on a peut-être, parce que j'ai une de mes filles qui s'est lancée dans l'aventure, où je me dis, bah, ça y est, là, on pourrait dire que si mes enfants ou les enfants...
Mais vous avez pris le virage ensemble avec maman, quoi.
Alors, un peu, parce que j'étais évidemment plus jeune qu'elle, de fait, hein.
Oui,
sinon,
bah,
ce serait pas ma mère, mais,
oui,
mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose comme ça dans la projection que les gens peuvent en faire. Au départ, on n'est pas une famille d'artistes.
J'ai bien compris.
Et c'est assez joli parce que c'est quelque chose qui s'est mis en place où on a appris ensemble.
Ça a pris racine ensemble.
Exactement.
Mais toi, quand même, tu quittes tout à l'âge de 14 ans,
ouais.
tu montes sur les planches et puis tu te lances dans l'aventure du conservatoire. Donc, maman a sa
conservatoire,
chemin.
Non. J'ai pas fait d'école.
D'accord.
Mais en revanche, j'avais très envie de d'être dans le monde des adultes, de ouais. partir, de travailler.
Ouais.
Et je suis parti de la maison, mais pas en colère. Hein. Myriam, on comprenait, j'avais une sorte de maturité d'un moment où on s'est dit, ok.
C'est hyper jeune, 14 ans. Toi qui es père de famille, tu t'imagines tes enfants à 14 ans qui
on
disent.
On a eu beaucoup de mal.
Papa, je vais bosser. Alors en 82, tu joues avec maman, d'ailleurs, le village sur la colline. Grosse émotion quand même, parce que t'es tout jeune là.
Oh oui, puis on peut pas dire à ce moment-là. Je peux pas dire que vraiment on joue pas quoi. D'ailleurs, je suis à chier dans le truc. C'est très très mauvais. Mais comme un enfant, c'est-à-dire
Un ado quoi.
Ouais. Alors en fait, je crois que le village sur la colline a dû passer en 82, mais on a dû le tourner en 79 ou un truc comme ça. Donc je devais avoir 10 ans ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment. Et tu vois un enfant mauvais. Tu sais, il y a des enfants qui sont bons.
Ouais.
Bah là, tu vois un enfant mauvais.
Ouais, j'en mais, vois normal, ouais.
Et c'est touchant après quand tu regardes parce que tu fais oh là là. Et t'as qu'une peur. Je pense qu'à un moment, Myriam elle s'est dit voilà. Pourvu qu'il ne veuille pas devenir acteur.
Ouais,
parce que c'est un peu angoissant quand ça joue faux.
En revanche, ça joue de mieux en mieux, parce que ton premier rôle de cinéma arrive en 84 avec Hors la loi,
ouais.
Et là, tu te sens mieux, peut-être.
Ah oui, mais là, c'est totalement différent. Je suis pas... Là, c'est une décision. Moi, je suis parti de chez moi, j'ai fait un peu garçon de café, tout ça, et le casting dure un an, je dois faire un tout petit rôle. Finalement, je me retrouve avec un des deux rôles principaux. T'es là, et tu pas battu parce que t'es trop jeune pour dire que tu t'es battu, mais
bien
tu
sûr.
T'es en tous les cas t'as pas lâché et l'endroit où tu voulais aller t'y es. Donc
dans la série tu lâches rien. Après pour certainement compléter ta formation, c'est le théâtre. Tu t'attaques la mouette de Tchekhov, le dindon de Fédon. Ce petit complément, c'est juste pour arriver à équilibrer tout ça et à performer, et se dire j'ai vraiment envie de faire ça, je veux aller plus loin, j'ai besoin de culture théâtrale.
En fait non. Je ne crois pas qu'on choisisse tant que ça. On choisit dans ce qui nous est proposé. L'idée, par exemple, du mot carrière ou tout ça, est quelque chose qui m'est très éloigné. J'y crois pas beaucoup. En revanche, je pense qu'avec ce qui nous est proposé, de temps en temps, quand on a de la chance, comme moi, j'ai eu de la chance et que j'en ai encore, pourvu que ça dure, tu peux faire des choix, mais tu fais des choix avec ce qui t'est proposé. Moi, ce qui m'a formé réellement après Hors la loi, c'est Peter Brook, c'est au théâtre, ça s'appelait le Mahabharata, une énorme pièce qui durait 12 heures, qu'on a joué partout en Europe.
Une histoire de dingue.
Un truc de fou.
12 heures, comment tu peux tenir 12 heures sur scène? Il y a des breaks, il y a des pauses,
il y a
des entraques.
Ouais, il y avait deux pauses et les gens faisaient la queue pendant des jours pour voir le spectacle. Et on jouait ça en plein air, donc on commençait le spectacle en fin de journée, on faisait toute la nuit et ça finissait au petit matin. Mais c'est un événement fou. On a joué à Athènes, au-dessus de l'Acropole. On a joué partout, dans des endroits fous.
Ouais.
Et on a créé des lieux, créé des théâtres qui sont restés des théâtres depuis. Bref, ça a été ma formation, du vrai premier travail d'acteur. Et après, c'est un metteur en scène qui s'appelle Alain Françon, qui est un des plus grands metteurs en scène de théâtre qu'on ait, avec qui j'ai travaillé pendant des années. Et ça a été mon école.
Ouais, l'école. Et puis alors, l'école se porte bien. Après, on a Les Amoureux. Après, on a Carnaval. Après, évidemment, Sam Carman, mon pote Sam Carman, à La Petite Semaine. Et puis après, il y a quelque chose, cet ex-légionnaire fan de foot, Mensonge et trahison et plus si affinité. Et alors là, c'est un grand virage.
Aujourd'hui, je m'attaque à la biographie d'un footballeur.
Je me demandais s'il n'y avait pas moyen d'écrire le bouquin un peu style de Baudelaire. Je me suis dit qu'on pourrait appeler ça droit au but.
T'embrasse les pieds, mais je te demande de donner ce boulot à quelqu'un d'autre.
Pense à ton chèque.
C'est là que le destin s'en mêle, la fiancée du footballeur et la fille dont j'étais amoureux à la fac.
Là, pour moi, c'est la révélation au grand public. Talent comique qu'on n'imaginait pas. Enfin, moi, je n'imaginais pas ça avant. César du meilleur acteur dans un second rôle. César du meilleur acteur avec ce film. Moi, je trouve quand même... Là, c'est la révolution, non? Humainement, quelque part, il se passe quelque chose.
Alors, pour être vraiment sincère... Non, ce qui se passe, c'est que quand j'ai commencé en 84, tout ça, j'ai fait quelques films. Et puis, le cinéma m'a... sorti de l'affaire. Donc je faisais plus partie vraiment du cinéma. J'ai tourné un peu, mais je tournais beaucoup pour la télé et je jouais au théâtre des grands rôles.
Bien
et
sûr.
Moi, ma vie, ça y est, je m'étais dit, c'est ça ma vie.
Ouais.
J'ai eu ma chance au cinéma.
Ouais.
Le cinéma m'a acheté, faut l'accepter. Je suis toujours allé là où on m'aimait. J'ai jamais été dans un fantasme de dire, je veux faire de la comédie parce que je fais que des drames, je veux faire des drames parce que je fais que de la comédie. Ça n'a jamais été une obsession ou un truc comme ça. Et pendant 15 ans, le cinéma n'était plus là. Donc pour moi, c'était terminé et c'était la vie. Et puis le cinéma, comme tu le disais à l'instant, est revenu début des années 2000 de manière assez puissante. Et donc j'ai pris ça avec beaucoup de recul.
C'est quoi cet élément détonateur? Comment ça se fait? Tu l'as expliqué?
Non.
Alors c'est assez rigolo parce que tu forces rien en fait.
Non, j'ai jamais été. Je suis trop orgueilleux, je pense. C'est un vrai défaut parce que c'est chiant. Et en même temps, c'est un défaut qui te sauve par moment. Et je pense que j'ai jamais été justement dans une situation où je me suis dit je veux ça, je veux y arriver. Ça n'a jamais été une obsession. En revanche, les moments où je me suis, par exemple, on a essayé de me mettre. Tu sais, ça a dû t'arriver, on te met en porte-à-faux, on dit, tu sais, on pense à toi pour ça, et on pense aussi à machin. J'ai dit, prenez l'autre. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas
de combat.
Il n'y a pas de question.
Ouais.
Viens pas me dire que tu hésites, c'est ton boulot à toi.
Ouais.
Et moi, très sincèrement, tu me dis que tu hésites, ça veut dire que tu ne veux pas de moi. Donc, prends l'autre. C'est logique. Il n'y a pas.
Mais c'est très élégant, quand même, comme démarche. Non, mais il y en a 75, allez, je dirais même 90% qui vont forcer dans ce métier. Tu sais exactement de quoi est fait ce métier.
Mais de temps en temps, c'est aussi ce qui fait leur nature. C'est-à-dire qu'avec le temps, au départ, tu peux te dire c'est un peu naze d'aller dans les salons, essayer de mettre son petit mot pour arriver à faire le. Dis c'est un peu naze. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, on dit mais chacun se bat avec ses armes. Ça a marché pour beaucoup d'entre eux aussi. Et donc,
sûr.
Tu fais, s'ils ne l'avaient pas fait, peut-être qu'ils auraient. Donc, tout se légitime en fait. Et moi, ma manière de fonctionner me va très bien.
C'est quoi? C'est de la pudeur? C'est du respect? C'est de la timidité?
Ah non, c'est vraiment de l'orgueil.
C'est de l'orgueil.
Je me dis, je pense que la manière dont je me place dans le travail, si tu as du désir pour mon travail, tu sais très bien qu'un mec comme moi va tout faire pour ton projet et il le fera le mieux possible.
Ouais.
Mais en revanche, qu'on me demande de me vendre pour dire prenez-moi pour que je fasse. Je me dis, je ne suis plus dans mon travail. C'est plus mon boulot.
C'est une super démarche. Et puis là, évidemment, qui vient te chercher pour faire Marius Lacaille? Parce que ça, pour le grand public, le côté populaire, là, c'est une ouverture de folie qu'on ne s'imaginait pas, parce que ça peut être un projet complètement raté. Et Marius Lacaille, ça devient ça.
Ah, c'est toi le motard? Mais t'es invalide des deux mains ou c'est ton kiff de te prendre les murs, toi?
Quoi? Est-ce que t'as dit qu'il parle vieux Samy? Il a des mots qui sont rentrés.
Tu sais pas parler? Quoi?
Il y a Igor Dosgor derrière, il y a Brice Denis. Qui vient te chercher pour faire Marius Lacaille?
En fait, l'idée, c'est que Jean venait...
Jean Dujardin était
à la télé. Ouais. Il faisait un truc qui s'appelait Chouchou et Loulou qui cartonnait.
Bien évidemment. Un gars, une fille.
Ouais.
Pas de problème.
Et donc, c'était un petit programme à la télé, mais qui cartonnait. Et moi, ce mec-là, on ne se connaît pas et tout ça, mais il veut faire du cinéma. Et on est tous les deux parrains du printemps du cinéma. Et c'est l'occasion de se rencontrer. Et ce mec-là me fait marrer. Vraiment, je trouve qu'il a une fraîcheur et qu'il a une dinguerie qui m'amuse, qui me plaît beaucoup. Et il s'avère qu'il aimait énormément mon travail. Enfin, il était un peu... il se dit, je suis là dans le cinéma, c'est bizarre. Il se sentait un petit peu pas à sa place et en même temps voulant en faire partie. Et on parle, on déconne, on se marre beaucoup pendant ce printemps du cinéma. Il m'a dit, tu sais, j'ai envie de faire j'ai écrit un film et tout. J'ai dit, putain, c'est génial, c'est bien, vas-y, balance-toi, tu vois, c'est vraiment
fonce,
le moment.
Oublie que t'as aucune chance, fonce.
Et deux jours après, il me dit, mais en fait, je te parlais de ce truc. Alors, je sais que je rêve, parce que évidemment, on tira pas là-dessus et tout, mais voilà, on cherche un gars pour jouer un rôle, mais c'est un peu dingo, quoi. Donc, je sais pas quoi te... File-moi, je vais lire. Je lis. Le scénario c'était pas un scénario comme on peut l'entendre. C'est-à-dire, c'était pas écrit. Ce qui était écrit, c'était Brice. Parce qu'il connaissait ce personnage-là. Il l'a inventé. Il en a fait des sketchs et tout ça. Et donc, la narration était un peu, Et le personnage de Marius n'existait pas vraiment. Il existait pas. Et le réalisateur, James Hutt et tout ça, en fait, j'appelle Jean. Je vois cet univers complètement, je vois surtout l'univers de Brice, de Jean Dujardin, du personnage de Brice. Je me dis, c'est une sacrée connerie qui peut être chouette. Et je parle avec le réalisateur, qui est un réalisateur très anglo-saxon dans sa manière de faire.
D'accord.
Et qui a envie de faire du cinéma avec ça. C'est-à-dire pas filmer un truc tout plat, mais faire vraiment des plans un peu délirants et tout ça. Et je dis à Jean et à James, je dis, les gars, moi en vrai je suis partant, mais il faut me laisser la place d'inventer ce Marius. Je vous dis où est-ce que j'imagine le personnage, c'est-à-dire pile à l'envers de Brice de Nice. Brice de Nice est un enfant riche, un gosse de riche, qui maîtrise le langage, qui est méchant, c'est-à-dire il se comporte mal,
il est extrêmement drôle,
et qu'en fait faudrait de faire du Marius exactement l'opposé, un mec de la rue qui ne sait pas parler et qui est complètement à l'envers de Brice, pour que ce duo-là,
bien sûr,
et ils me disent, tu sais quoi, ce que tu veux, et James amène cette chose extraordinaire qui sont ses pieds.
Le réalisateur.
Les deux pieds, les deux pouces.
Ouais.
Le jour où il me montre ça, je dis, gars, mais évidemment, on y va.
Ouais.
Et c'est comme ça que en fait, ce film-là s'est fait. Et c'est pareil, vous parliez tout à l'heure, tu parlais tout à l'heure d'un petit truc en plus. C'est des films qui ont été très compliqués à monter financièrement. Les gens en voulaient pas. Les producteurs, c'était contrairement à ce qu'on croit, c'est des films où il a fallu,
batailler.
Et à l'arrivée,
il a bataillé pendant quelques années. Quel résultat? On va en parler dans un instant, vous l'avez bien compris, chers auditeurs, c'est Clovis Cornillac que nous recevons ce soir sur Nostalgie. On est en plein dans l'actu puisque mercredi sort Des Jours Meilleurs, et là on va en parler parce que c'est un énorme voyage qui va sortir. Beaucoup, beaucoup de surprises dans ta carrière, dans ton parcours, sur ton chemin. Et sur le chemin du week-end, en parlant de Brice de Nice, ça va nous rappeler des souvenirs. On va se remémorer. Tu te rappelles des paroles ou pas? Le casse de Bryce.
Ouais, moi je me rappelle surtout de celle de Benson, parce que évidemment.
Eh ben ça tombe bien, c'est celle qu'on écoute sur la route du week-end. Oh là là, que de souvenirs. Clovis Cornillac sur Nostalgie. Je suis content de commencer le week-end avec un acteur. Mais alors quand je dis un acteur, un vrai César. Du meilleur acteur dans un second rôle, Marius Lacaille dans Brice de Nice, on s'en amuse encore. Et puis après, Commissaire Valentin, et puis le capitaine Sébastien Valois, ça aussi quand même dans Les Chevaliers du Ciel, ça le fait, non?
On va accueillir de nouveau avec une petite surprise.
On va les faire tourner jusqu'à ce qu'ils appellent leur mère.
Bordel, il est passé derrière.
Là c'est Valois, il en chie.
Putain, j'en chie.
Et t'es dans le cockpit, là, tu l'as fait.
Ah oui, c'était une aventure dément. Enfin, ça, c'est les occasions de temps en temps. Alors, je ne parle pas de ce film-là en particulier, mais il m'est arrivé de faire des films, de temps en temps, d'accepter des films.
Ouais.
Pas forcément pour les bonnes raisons, et parce que je voulais vivre...
cette aventure de dingue.
Ouais, c'est-à-dire me mettre au service de quelque chose auquel j'aurais jamais accès. Là, sur Les Chevaliers du Ciel, c'était pas le cas, mais ça a été une aventure incroyable avec les pilotes. Avec qui on a pu...
Mais t'es monté dans quel engin?
Ah ben j'étais beaucoup en Mirage 2000.
Ouais, ouais. Et ça te fait pas peur?
Ah non, ça m'excitait beaucoup. C'est au départ, il y a une appréhension parce que tu ne sais pas ce que c'est. Puis tu fais tes 3 jours de formation pour voir déjà si physiquement c'est jouable. Voilà, moi il n'y avait pas de souci avec ça, donc... j'ai bien pris dans la gueule parce que tu prends cher. Hein,
tu dois prendre très très cher quand même.
Mais en même temps... tu te rends compte de la... Et les pilotes te le disent d'ailleurs. Ils disent, c'est fou, c'est chouette de pouvoir partager avec quelqu'un. Parce que même nos familles, personne n'a le droit de monter dans des mirages. Donc ils peuvent jamais partager quelque chose d'aussi passionnant et intime. Et c'est vrai que de voler avec eux, et de temps en temps, c'est voilà, on a fait... Après, quand tu pars toujours... Tu pars pas pour t'amuser, c'est toujours des missions.
Ouais, bien sûr.
Donc, c'est trop cher.
Ouais,
mais donc,
sûr.
Tu te retrouves dans des missions, pas des missions, des missions d'entraînement.
Mais toi, t'es filmé, c'est un truc de fou.
Alors après, on a fait... Moi, j'avais la chance qu'ils m'embarquent faire des vols.
Ouais.
Et puis après, tout ce qui est filmé en gros plan tout ça, ils avaient construit, c'est Dassault qui avait construit ça, un cockpit qui était à 20-30 mètres de haut sur une grue et qui bougeait exactement comme bouge l'avion.
Extraordinaire.
Ce qui fait que contrairement à... C'était leur grand truc de... Parce qu'il y avait eu ce carton mondial avec Tom Cruise, hein, j'ai plus le nom, mais... Top Gun.
Top Gun, oui,
et en fait, ils disaient dans Top Gun, nous, ce qui nous ennuie, c'est qu'on voit que ça bouge pas, les trucs bougent pas. Et donc, ils avaient inventé cette chose-là qui bouge exactement à la même vitesse que le cockpit bouge
donc
exactement.
Donc, tu t'en prends dans le bide en même temps.
Et en fait, voilà. Et comme ça, t'as toutes
les sensations.
Tout qui bouge, surtout. Ouais. Ce qui est dans que ce soit les ceintures de sécurité, les trucs comme ça, ça devient dans la gueule, les trucs bougent parce que ça va exactement.
Et le téléspectateur a ce même ressenti.
Ah oui. C'était très bien fait. Les images aériennes sont des vraies images aériennes. Il n'y a pas de... tout ce qu'on voit dans le film est vraiment tourné.
Quoi. Dans l'actualité, t'as vu que les pilotes de Mirage aux États-Unis sont en dépression, se disent à un moment donné on a pris beaucoup. Tu as vu passer cette actualité?
Non.
J'ai vu passer dans un push. C'est vrai qu'ils sont quand même très 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 solitaires quelque part, et tu as raison de le dire. Ils peuvent pas partager ces émotions avec leur famille. Tout le monde rêve un jour d'être pilote de chasse.
Ouais, c'est très étonnant comme...
T'as partagé avec eux ça?
Ouais, j'ai partagé beaucoup de moments avec eux. Ouais. Beaucoup. Et en fait, ce que j'aime beaucoup aussi dans l'armée de l'air, j'espère qu'ils m'en voudront pas tous, mais je leur ai dit de toute façon, mais c'est qu'il n'y a pas ce côté justement... moi, à l'armée, par exemple, ça me saoulait.
Ouais, voilà. Ce y a côté pas, militaire, tu veux dire.
Ce côté à chaque fois, tu te salues, tu machin, oui mon commandant, oui mon
le
machin.
Le respect de l'homme, ouais, tout ça. Toi, t'es dans ta bulle, quoi.
Il y a quelque chose dans l'armée de l'air, sur le tarmac et tout ça, sur la notion de le seul moment où ils saluent vraiment, c'est entre, et je trouve ça assez beau, c'est entre le mécanicien qui prépare ton avion et le pilote, et le moment où ils montent avant qu'ils partent. Et là, ils ont un salut toujours l'un à l'autre.
De respect.
Et puis de, on se fait confiance.
L'un sans l'autre, ça marche
pas. C'est impossible.
Pas.
Si ton mécanicien, ouais. Le mécanicien, il a qu'une
peur. Il y a cette pudeur quand même.
C'est
alors.
Super joli parce qu'il ouais. se regarde, il se salue, et dans ce salut là. Il y a ce côté... Bah,
je te remets ma vie.
Ouais, et reviens.
Ouais,
et
ouais surtout voilà, reviens. Ouais.
Reviens, et toi, top. Voilà, on, c'est très... Et là, le salut, pour moi, il a du sens. Alors que le salut sur un tarmac, mon colonel, mon machin, mon truc, ça, voilà.
C'était pas ma guerre. Non.
Je vais une putain de guerre.
Ouais,
non, j'étais pas là.
Non, c'est ce respect, cette pudeur, ouais. Et cette élégance, parce que c'est élégant. Je veux dire, ça, c'est pour toutes les femmes, quand Top Gun est sorti, il y avait une espèce de fantasme, outre de la combinaison, des galons, des machins.
Mais à ce côté, pas que chez les femmes, hein, chez les hommes, surtout. Ouais, ouais, je pense que tous les mecs, ils se disaient, tu vois, ouais, j'ai envie d'être ça, tout ça. Alors après, moi, le truc à l'américaine, je suis moins sensible parce qu'il y a un truc qui me fait marrer là-dedans. J'ai l'impression d'être de dans un clip des années 80. C'est du soleil couchant avec deux personnes.
Ouais, mais c'est le truc à l'eau de rose qui va bien. Quoi.
Mais ça me fait rire. Ouais. Mais ça marche. Et bah tu te dis, bah, c'est chouette.
Mais
mieux.
C'est pas complètement comme ça.
Non, c'est pas comme ça.
On est d'accord. Alors ta carrière continue K1K1. On saute quelques étapes, évidemment, pour arriver, et alors encore une révolution, dans Astérix, aux Jeux Olympiques, monsieur est Astérix.
Est-ce que je t'ai demandé de le frapper?
Je l'ai pas frappé.
T'as frappé?
Non! J'ai illustré tes propos par les gestes.
Là, pour moi, je m'attendais pas du tout à toi dans ce rôle. À chaque fois, tu nous surprends. À côté de Gérard Depardieu, bien évidemment, une espèce de monstre sacré. Je pense que vous êtes marré obligatoirement, mais c'est quand même un rôle qui est pas évident. Tu représentes la France quelque part ou pas,
hein? En fait, ce qui m'a extrêmement excité dans l'idée de jouer Astérix,
ouais.
C'était l'idée de jouer un dessin. Et ça, j'avais jamais fait. C'est-à-dire partir pour faire un personnage, partir du dessin. Donc, je me disais comment, c'est quoi Astérix en fait? Qu'est-ce quand je regarde la BD, il y a deux choses qui me paraissaient absolument essentielles. C'est la posture, c'est-à-dire ce mec est tout petit, il a les jambes arquées, il a pas la puissance, ouais. Mais il est malin, il est en colère et il est de mauvaise foi. Et je me dis, c'est un vrai Français.
Ouais.
Donc l'idée, c'était d'avoir de pouvoir fabriquer ça à l'image.
Ouais.
Et de l'incarner.
Bien sûr.
Et c'était une expérience débante. Après, tu sais jamais, réussi par réussi, c'est pas mon problème. Moi, je fais tout pour que ce soit le mieux possible. Mais,
mais si ça peut marcher, c'est bien quand même.
Bien sûr. Hein? Et c'était un vrai bonheur. De travailler ce parcours-là.
Ouais. Et le partage avec Depardieu.
Dans les yeux, on a une vraie complicité d'acteur.
Ouais.
C'est vraiment quelqu'un. On avait fait aussi un film de mince.
Non, il y a pas de souci.
Ah ouais, non, mais en plus un réalisateur Chabrol.
D'accord.
Que j'adore.
Claude Chabrol.
Et où on jouait deux frères.
Ouais.
Mais c'est pareil,
la naissance de Astérix Obélix, c'était de Frangin aussi, quelque part.
Ouais, exactement.
Ouais.
Il y avait cette chose entre moteur et coupé, on y croit.
Ouais.
On s'y croit. J'adore jouer avec des gens qui, entre moteur et coupé, y croient, et quand c'est coupé, ils savent que c'est fini.
Et ils savent qu'à un moment donné, il y a eu un petit moment suspendu ou pas, ouais, on leur fait pas.
Ouais, mais cette notion de jouer ensemble, de s'y croire vraiment, et de couper, quand c'est coupé, les gens qui disent, ah, écoute, là le personnage est tellement machin que j'ai du mal. À... Bon, je respecte, mais c'est quelque chose ça me parle pas.
Ouais, ce qui me parle, ce qui t'appartient, c'est entre le moteur et le coupé, cette complicité, cet œil, ou d'un seul coup.
Et cette force que t'as à ce moment-là.
À deux, ou un plus d'ailleurs.
Ouais, ouais.
On va en parler dans les jours meilleurs, parce que la complicité, le voyage, il est énorme. Ça sort en salle mercredi prochain. On continue ton petit parcours quand même, parce que moi, ce que j'aime bien, voilà, j'ai commencé la radio en 81, tu t'imagines, c'était pas d'hier, c'est Radio Star. Et là, Arnold, extraordinaire.
Blast FM, tu montes le son et tu fermes ta gueule.
Blast FM, bonjour, de retour dans le breakfast.
Oh ouais.
Mais oulala, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on a un intrus dans le studio. Qu'est-ce que
Allez,
c'est?
Viens,
non, viens, entre. Ouh. Non, on n'entend pas tes gestes. On l'assoit, on lui met un casque et il parle dans le micro. Il va se présenter, comment tu t'appelles, s'il te plaît?
Il s'appelle Clovis Cornillac et il se marre énormément. Là aussi, tranche de poilade entre moteur et coupé. Il y a quand même de l'improvisation au milieu de tout ça, non?
Oui, alors ce qu'on appelle l'improvisation, moi je me méfie beaucoup. Parce que l'improvisation, c'est vraiment quelque chose où il n'y a rien, où tu pars avec un ticket et tout ça. Là, c'est
non,
un
mais film l'improvisation
qui est
dans le sentiment, excuse-moi de te couper. Voilà, c'est ça.
Il y a de la vie. C'est-à-dire qu'on amène les uns les autres, évidemment, du swing à l'intérieur d'une scène, mais surtout sans la...
La calculer au préalable.
Ouais, ou en tout cas pas dénaturer une scène, mais évidemment la faire vivre. Et sur cette typologie de film ou de scène... Évidemment qu'il faut que ça swing. Donc il faut qu'on soit tous ensemble et qu'il se passe quelque chose ensemble.
Ouais.
Donc c'est pas ce que j'appelle de l'impro, mais c'est du vivant, quoi. Il faut amener du vivant, et souvent au cinéma ou à la télé et tout ça, il faut en amener, parce que sinon les choses sont très figées. Mais ça veut pas dire commenter tout ce qu'on fait, ça veut pas dire
insupportable.
Voilà. Et ni avoir du surjeu ou du truc, mais être vivant ensemble, quoi. Être au présent.
Ouais. Ça, je trouve ça. Je t'écoute avec beaucoup de délectation. Et puis après, amener du vivant, ça t'amène à réaliser, première réalisation juste un petit peu plus tard, un peu, beaucoup, aveuglément.
Vous êtes comment?
Grande et blonde. Et vous?
J'ai les yeux foncés, type méditerranéen, les cheveux un peu ondulés.
R-E-S-P-E-C-T.
Ben oui.
Je peux vous dire une chose, c'est qu'on se voit mieux sans se voir.
Cette phrase n'a aucun sens.
Comment on arrive à la réalisation d'un mec qui est chez lui totalement reclus et qui communique avec sa voisine à travers un mur, et en plus tu réalises, là je trouve ça quand même assez magique, ça vient d'où l'idée?
L'idée, elle vient de Lilou Fogli, mon épouse, qui est comédienne et qui est aussi scénariste, et qui avait une envie de... En fait, c'est beaucoup de choses, mais elle avait écrit une première pièce de théâtre qui était ça s'appelait Machin Machine à l'époque.
Mmh.
Et moi, je voulais faire mon premier long métrage. Et tout à coup, cette pièce, j'ai dit, mais est-ce que si je t'en commande un scénario, on est capable d'y aller? Elle n'avait pas écrit de scénario encore. On a pris aussi des scénaristes avec nous. Elle a écrit avec. Donc la pièce a bougé, évidemment, et est devenue le film.
D'accord.
C'était un moment de ma vie, en fait, où j'avais l'impression d'avoir fait de temps en temps, et sur cette période-là notamment, des films où j'étais un peu déçu du travail qui était fait à la réalisation. Je trouvais que c'était dommage. J'avais le sentiment que...
on n'avait pas été au bout.
Ben, c'est-à-dire qu'on faisait des films et en même temps, il n'y avait pas de passion de réalisation dedans. Donc je m'inquiétais en me disant, mais est-ce que toi tu deviens con et aigri? Ou est-ce que...
On peut aller plus loin.
Ou est-ce que peut-être, effectivement, il y a des flemmards aussi dans la réa.
Et ils vont pas jusqu'au bout.
Et je me suis dit, le mieux... pour jamais être aigri, c'est de mettre les mains dedans une fois dans ta vie, et peut-être tu retrouveras cette espèce de bienveillance vis-à-vis de la réalisation en disant, t'as vu, t'as fait une belle merde, t'as vu, c'est compliqué à faire en fait. Et c'est pas un problème d'implication, c'est un problème. Donc, je pars sur ce film-là en me disant, je l'aurais fait une fois dans ma vie.
Ouais.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment, parce que à part la recherche de financement qui est quand même plus que chiant,
ouais,
plus que pas notre métier,
une
mais
galère,
qui
ouais,
est épuisant.
Une galère, ouais.
À partir du moment où j'ai eu le financement, pas suffisant, mais j'ai eu le financement pour faire le film, tout m'a passionné. Je suis devenu dingo de l'affaire. J'aurais jamais cru. C'est-à-dire que la réalisation est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. C'est
La plus belle chose, tu dis, alors que tu es sur scène en ce moment avec Murmure, tu es au cinéma, tu es comédien, et tu dis que la réalisation, c'est la plus belle chose qui te soit arrivée. Alors ça, c'est étonnant quand même.
Mais parce que, en fait, la réalisation, c'est la seule fois, c'est les seuls moments où je suis un artiste. Et donc, le fait
quand t'es comédien, t'es pas artiste.
Je suis un artisan d'art, ce qui est très noble et que j'adore. J'ai ma boutique, je travaille le bois, par exemple, l'ébénisterie, et je vais travailler pour un architecte et je vais lui proposer des choses, des essences particulières, des couleurs, des formes. Je vais travailler pour son bâtiment.
Oui, quand t'es réalisateur, donc t'es carrément charpentier, quoi.
Ben non, t'inventes le monde.
Ouais.
C'est-à-dire que chaque plan, c'est une décision de raconter le monde.
Ouais.
Chaque mouvement de caméra raconte quelque chose, chaque costume, la manière dont tu fais bouger les acteurs, dont ils vont jouer. J'invente le monde comme un peintre devant une toile ou un écrivain ou un sculpteur. Et donc, tu dis, ben là, dans ces moments-là, c'est absolu. Tout est. C'est pour ça que t'es très seul quand tu réalises. T'es seul, entouré de beaucoup de monde. Mais
c'est toi qui prends les décisions.
Et puis ça t'appartient.
Ouais.
C'est-à-dire que un film, c'est toi tout nu. C'est-à-dire toi, t'es partout. T'es partout et tu dois assumer tout. T'assumes le nuage qui passe. T'assumes absolument tout ce qui est. Et c'est ce que je dis toujours après mes films. Quand vous regardez mes films, s'ils sont réussis, c'est grâce à tout le monde, parce que moi, je suis pas, électro, hein, je peux pas tirer les câbles.
Mais t'es quand même le chef d'orchestre.
Mais si le film est réussi, c'est grâce à tout le monde, et s'il est raté, il y a que toi. Parce que tous ont écouté ce que toi, t'as voulu faire.
C'est à cause de toi.
Donc, c'est un moment artistique absolu, puisque tu fabriques.
Quand tu vois le résultat la première fois de ça, en salle, tout ça, l'émotion et l'accueil du public, tu le ressens comment, toi?
À
la hauteur de ce que tu as mis en énergie?
Le process est tellement long que, tu vois, les mois passés au montage, enfermé avec ton monteur, ensuite avec le monteur son, avec
tout.
Tu vois, j'adore. Le montage, m'enfermer 3 mois avec, après le montage son, tout.
Faut avoir du temps, quoi.
Le mixage, tu t'engages à ça.
Ouais.
Si tu fais un film, tu fais un film. Donc, et au moment où il commence à être donné, enfin à être, t'es dans la projection de ça. Donc, t'es ravi de sentir quand les gens s'emparent du film. C'est extrêmement agréable.
C'est jubilatoire.
Tu fais, c'est extra. Et en même temps, il t'échappe parce que tu te dis...
Ça t'appartient plus.
Ouais.
C'est comme une chanson, quoi, en fait.
Ouais, c'est super comme sentiment.
J'adore, je bois tes paroles en ce moment. Excuse-moi, je suis désolé, je suis totalement passionné. C'est bel et bien Clovis Cornillac que nous recevons ce soir. Et puis alors, dans la délectation sublime dont tu parles, ça continue avec Belle et Sébastien. Tu n'en as pas assez et tu continues à réaliser.
Le chalet de César, tu connais?
Je peux vous emmener si vous voulez.
Vous avez déjà regardé Joseph dans les yeux? Dans son regard, il n'y a que le vide et la mort.
Mais ça fait plus de 4 ans que je la cherche partout, ma chienne.
Ah, qu'est-ce qui me prouve qu'elle est à vous?
Cette chienne est à moi.
Là, tu te piques au jeu carrément. Belle et Sébastien, c'est quand même une institution pour nous. Enfin, moi, quand j'étais gamin, Cécile Aubry...
Le petit Mehdi,
et Tutti Quanti, et puis le chien, et puis le Saint-Bernard, je crois, de mémoire.
C'est un patou.
Excuse-moi, on dit bonjour à Sébastien Patou. Mais outre ce phénomène, là, tu te piques carrément au jeu. On est en 2017 avec Belle et Sébastien, tu réalises encore.
Ouais. Et en fait, au départ, quand il me propose ça, c'est un producteur, Clément Miseret, pour pas le nommer, qui me propose de faire ça. Je tombe des nues, je dis, mais j'ai rien à voir avec... Surtout qu'il y en avait eu 2 autres avant, ça. Bref, je comprends pas pourquoi. Écoute, je me vois pas faire un truc de mignonnerie, c'est pas mon... Et je lis, et en fait, en lisant, je vois un western, je vois Steinbeck, je vois le Grand Nord, je vois
et donc il y a ça se passe aux États-Unis quand même Steinbeck beaucoup.
Mais il y a un fantasme qui ça réveille quelque chose où je me dis alors attends pourquoi pas, mais celui-là n'aura rien à voir avec les deux autres. Je veux vraiment faire une fable qui a à voir avec avec le Grand Nord quoi.
Ouais.
Et là, surtout un personnage qui est Sébastien et qui juste avant l'adolescence, donc la préadolescence, le rapport aux animaux, le rapport aussi à la fugue, le rapport à vivre seul, apprendre ce que c'est que s'échapper et le danger de la montagne, et un personnage emblématique qui est le mal.
Est-ce
c'est-à-dire le mal absolu.
Est-ce que ce jour-là, il te demande ce que t'as pris au petit déjeuner?
Non, il me dit, oui, oui, bien sûr, et tout, super. Mais il sait pas. Et
voilà, puis, c'est ça le problème.
Ouais, non, il dit, et puis finalement, avec Gaumont, qui sont partenaires, et puis avec d'autres producteurs et tout ça, j'ai jamais menti sur le projet, parce que c'est un truc que je déteste, c'est dire quelque chose que je ne vais pas faire. Je préfère rater quelque chose que j'ai dit, mais dire, je vais faire ça, puis à l'arrivée, tu dis, d'accord, mais ok.
On est où sur le projet de base?
Ouais. En fait, tu nous as vendu un truc, mais il n'y a pas.
Du tout.
Et donc, j'appuie pendant la préparation du film, et il commence à voir des photos dans mon bureau, et il commence à flipper fort en disant, non mais attends, le méchant, il est super méchant. J'ai, oui, parce que la détermination, pour à mon avis, dans la préadolescence qu'on a vécu nous tous, c'est que dans la fable, le choix entre le bien et le mal, il est déterminant. Et je trouve qu'à 12, 13 ans, 14 ans, on a tous un moment où tu fais la connerie ultime, ou au contraire, cette espèce d'alerte où tu fais, il y a un truc qui va pas.
Ouais.
Je le fais, mais il y a un truc qui va pas. Et je voulais vraiment que le mal, le personnage du mal, soit tellement terrifiant que le choix qu'il ait à faire chez l'enfant soit vraiment un choix absolu, à se dire, je refuse de rentrer là-dedans. Je n'y vais pas.
C'est-à-dire que l'ado a une vraie prise de décision.
Oui, parce que c'est le moment où il veut s'émanciper. Quoi. Ouais. L'émancipation, c'est aussi être en danger.
Ouais.
Et donc, tout le principe de Belle et Sébastien 3, c'est que c'est une aventure, évidemment, avec Belle, avec tout ça, mais avec apprendre à grandir.
C'est un bonheur de t'écouter, vraiment. Et puis après, ça continue. C'est magnifique. Tu joues et tu continues à réaliser. Et puis, il y a Pouette, Kaamelott. Alors là... On est parti complètement sur un côté fantasque, ce côté complètement barré, les Astiers, enfin...
J'aime beaucoup Alexandre, c'est vraiment un mec que j'aime énormément.
Il a un univers de dingue.
Voilà, et puis, c'est un monde qui lui appartient, donc on vient faire coucou avec énormément de plaisir, en disant, gars, évidemment, je serai là. Le seul truc, c'est que à chaque fois, t'es obligé de lui dire, parce que comme tu comprends rien, ces histoires, c'est tellement énorme, et puis les machins, il met des années à faire le truc. Tu dis, il dit, mais je peux t'écrire quelque chose. Tu fais, mais je vais pas t'empêcher d'écrire un truc. Simplement, pense bien qu'il faut que ce soit court. Parce que toi, je sais pas quand tu vas tourner, je sais pas où. Et donc, il faut que, moi, je serai avec plaisir, mais mets-moi ça sur peu de jours.
Oui.
Et après, quand les films se font, le gars t'appelle, il a donc 6 mois ou 7 mois de tournage.
Oui.
Et tu dis, attention, moi je peux tourner que là et là. Ben, le mec, il change le plan de travail pour que tu puisses tourner tes 4 jours. Il arrive à les caler. Je sais pas, les producteurs d'Alex, bravo.
Oui.
Je sais pas comment vous faites.
Et puis toi, tu continues et d'un seul coup, on s'aperçoit que Jean-Claude chante vraiment dans Si on chantait.
Une livraison pour Marc.
Ouais, c'est moi.
C'est un message de Mélanie. Marc, je me casse. Adieu, Ducon.
Partir un jour.
C'est toi?
Ouais.
C'est Clovis Cornillac qui chante là.
C'était moi, les Toubi 3.
Ah oui, c'est ça, les Toubi 3. Alors en plus, on voit que tu t'amuses vraiment, tu continues, les couleurs de l'incendie, monsieur le maire. Et puis là, le choc frontal que personne n'a vu arriver, sauf Artus qui a bossé comme un fou, c'est le petit truc en plus.
Oh, t'es sapé. Je suis sapé en touriste allemand, comme ça passe inaperçu.
Mais non, sapé en bouffon, on va voir que toi.
Toi, c'est marqué sur ta gueule que tu viens de faire un braquage.
C'est dingue parce que voilà, tu joues un braqueur, plus de 10 millions d'entrées de mémoire au cinéma. Tu dois te cacher dans une colonie pour jeunes en situation de handicap. Là, c'est plus qu'un film, c'est plus qu'une aventure. C'est pour Artus, pour toi, pour vous qui acceptez quand même d'aller dans cette aventure. C'est une épopée, c'est un virage dans une vie de dingue, de mettre en avant la différence, de mettre en avant le handicap, avec toutes les réminiscences après qui peuvent avoir lieu sur le tapis rouge à Cannes, sur tout ça. Tu le vois arriver, cette espèce de... Tu la vois arriver, cette espèce de météorite ?
Non. Non, et puis, enfin, franchement, ceux qui pourraient dire qu'ils l'ont vu arriver sont gonflés, parce que non, c'est impossible. Ce qui est sûr, c'est que les choses se font toujours par étapes. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu vois arriver, c'est d'abord, moi j'ai eu la rencontre avec Artus sur un autre film, le film là où je chantais justement. Là,
si on chantait, ouais.
Il y a une vraie accroche. Je connaissais pas le bonhomme, je l'avais vu comme... Je savais pas que c'était un comique. J'avais vu, moi, dans le Bureau des Légendes, j'avais trouvé cet acteur incroyable. J'ai dit, c'est qui cet acteur? Je le connais pas.
Ouais.
Et donc, quand
une espèce d'ovni.
Ouais, que je trouvais vraiment formidable. Ouais. Et puis en travaillant ensemble, on s'est vraiment apprécié. On a eu un... Tu sais, ça arrive, c'est un crush, quoi, où tu te dis, c'est chouette. Les producteurs de ce film-là, ciné-nominés, pour pas les nommer, sont les producteurs de mes films.
Donc, obligatoirement, ça crée un petit lien.
Et lui veut, dit, j'aimerais bien faire un film sur les handicapés. Eux se disent, Artus, et ben nous, avec plaisir. Le truc se fait comme ça. Et Artus me dit, écoute, je vais te dire la vérité, dans mon idée de pitch, tout ça, là, est-ce que si je fais mon film, t'accepterais de jouer mon père? Je lui dis, mais évidemment, mais bon, je sais pas quand tu feras ton film, et je sais pas ce que ce sera, mais tu vois, dans l'idée, dans la rencontre et tout ça. Et puis, plein de choses, c'est long, hein, le process d'écriture et tout ça, à un moment...
Ouais, et puis trouver les financements, voilà, et puis trouver les comédiens, ouais,
et le moment où il approche de la fin du financement, où il lui faut aussi un père qui a identifié, on va dire, un peu connu, ou tout ça, ça tombe à un moment où moi je dois réaliser mon film, que j'espère réaliser finalement là, en septembre prochain, et je dis, putain, je peux pas. Finalement, la dinguerie du truc, je vois que mon film bloque en fin de financement, on n'y est pas et tout ça, et je dis, je vais le décaler. Je décale mon film, je dis à Artus, écoute, si tu veux, je peux être là, ils sautent de joie, les producteurs qui sont poteau fond, génial et tout. Donc on part sur l'aventure où on se dit, voilà, pendant deux mois et quelques, il faut qu'on soit là tous les jours parce que c'est pas comme un tournage normal, il faut qu'on soit tous à l'écoute de tout le monde, parce que on sait pas comment ça va réagir, on sait pas comment on va échanger, jouer sur ce truc. Ok, on part sur l'aventure. Énorme bonheur à travailler, avec tout ce que ça comporte d'écoute, de regard, d'écoute, d'échange. Sublime moment, on s'est régalé.
D'improvisation aussi, parce que voilà, tu sais pas où ça va exploser.
Voilà.
Pour faire une parenthèse sur Léo Mattei, là, qui va avoir lieu sur la Brigade des Mineurs, de temps en temps, quand on joue avec soit des autistes, soit des gens différents, d'un seul coup, il peut y avoir des pépites t'es obligé de garder la ligne éditoriale, certes, mais tu joues avec l'autre. C'est des moments suspendus. C'est l'histoire d'une vie.
Et puis, c'est extrêmement important d'être. C'est ce que je disais tout à l'heure, entre moteur et coupé, il y a cette chose où tu fais « je dois être vivant ». Donc si tu es vivant à ce moment-là, il n'y a aucune raison, parce que quelqu'un ne te donne pas la bonne réplique, tout à coup tu fais « ah bah oui, mais alors là je ne sais plus ». Tu fais « dans la vie, je ne vais pas t'arrêter parce que tu ne m'as pas dit la bonne chose ». Ça ne marche pas comme
Impossible.
Ça. Donc on doit être à cet endroit-là, extrêmement sensible, vigilant, à l'écoute. Et ça a été un moment formidable. Derrière, on voit le film.
Ouais.
Tu vois le film, tu dis, Artus, je pense que c'est le film que tu voulais faire. Franchement, c'est ça dont tu m'as parlé. J'espère que tu es heureux. Il était super heureux.
Il dit, il était très heureux
du film. Il s'est dit, ouais, c'est ça que je voulais faire. Mais là, tu sais pas. Et c'est en fait les choses. Après, quand tu commences à montrer le film, et par expérience, parce que ça fait 40 ans, moi, cette année que je fais du cinéma, je me dis, dans la pro. Enfin, les avant-premières, les trucs comme ça, tu dis, à mon avis.
Il y a un petit truc qui.
Il se passe quelque chose. Qui est pas tout le temps. Ça m'est arrivé, mais c'est pas tout le temps. Donc, faut vraiment être vigilant parce qu'il y a, et d'autres professionnels qui font du cinéma
de
depuis longtemps. Et là, tu commences à te dire, bon. Et là, les distributeurs ont extrêmement bien travaillé en disant, OK, là, il faut qu'on soit, on tient peut-être quelque chose. Quand on dit on tient quelque chose, c'est qu'on pensait faire un film qui ferait peut-être 1 million, 1,5 million. Alors qu'au départ, c'est des films où tu te dis, ça va faire 500 000, 600 000 et ce sera un succès.
Ouais.
Et ça fait 11 millions d'entrées. Tu fais, ouais, mais là, après, c'est plus personne n'a les clés. Une fois que ça part comme ça, les gens s'en emparent et c'est t'es témoin de ce succès, quoi. C'est fabuleux. Et je suis très heureux pour tous les gens qui ont participé pour le coup à ce film. Mmh. Aussi bien évidemment Artus en premier lieu, toute la bande évidemment, les acteurs et actrices sur le film, producteurs qui sont des producteurs absolument formidables parce que ça aussi c'est à signaler, le distributeur qui a fait ce travail là. Alors que c'est pas un monstre de distributeur, mais qui a fait le travail au bon moment.
Non, mais c'est ça, parce qu'il faut prendre le train en marche. Il tu faut as totalement, tout, c'est d'un seul coup, c'est la machine qui s'emballe.
Il faut que tout se mette à l'heure en même temps.
On se tutoie sur Nostalgie.
Avec Jean-Luc Reichmann.
Tous les vendredis soirs, 19h-20h.
Et à tout moment, en podcast, sur l'appli Nostalgie.